Oui, non, c'est par le livre que j'ai vraiment découvert cette histoire que je ne connaissais pas. Et dans le livre, il y avait presque un point aveugle, qui était cet architecte dont on ne connaît rien, qui est un personnage assez mystérieux. Et voilà. Donc c'est ouais, le livre, je le trouvais intéressant parce que c'est un destin hors du commun, avec un personnage vraiment romanesque. Et c'est une histoire qui soulève des questions plus grandes que simplement le portrait d'un architecte. C'est aussi le portrait d'une époque. C'est à travers cette époque, ça questionne beaucoup la nôtre. Et dès qu'on parle d'architecture, on parle d'esthétique, mais on parle aussi en fait de vie collective et de politique. Donc, je trouvais que ça donnait tout ça une épaisseur et une profondeur à cette histoire. Donc, c'est ce qui m'a donné envie d'y aller. Le livre, c'est vraiment un livre. Qui raconte l'histoire de l'Arche et pas seulement. Enfin, l'histoire de la Défense même, c'est l'Arche, mais c'est tout l'historique de la Défense avec les projets qui ont pu y avoir avant l'Arche, etc. Et à un moment donné, il y a un gros, gros morceau qui est consacré strictement à l'Arche, mais à ses aspects techniques, politiques, etc. Mais il y a. Voilà, il y a. Moi, le fait. Moi, mon parti pris, ça a été de dire tout ce qui aura trait aux politiques ou aux aspects de construction. Ce sera étayé et ce sera fidèle à ce qu'on sait de la réalité. Et là-dessus, le livre était très bien renseigné d'ailleurs. En revanche, tout ce qui concerne l'intimité des personnages, puisqu'elle est totalement, merci beaucoup, puisqu'elle est totalement méconnue, et bah, ce sera de l'ordre de la fiction. Et là, j'inventerai. Alors, j'invente à partir de choses que je pressens, mais aussi des choses que j'imagine, des choses que j'ai vues par ailleurs, mais j'ai inventé. C'est un monde, un univers qui est totalement masculin, ça ne vous a pas échappé. C'est une époque où tous les décideurs étaient des hommes. Donc, pour moi, c'était d'autant plus important que ce personnage féminin, il existe. D'autant qu'on sait que. Moi, j'ai gagné ma vie longtemps dans des interviews d'architectes. Et je constatais que souvent, il y avait une figure qui revenait, c'était celle de la femme. Alors, parfois, c'était une assistante, parfois, c'était l'épouse, qui est aux côtés de l'architecte, qui lui seul est dans la lumière, mais qui joue un rôle décisif. Et si elle n'est pas là, il tombe. Et je voyais souvent ça, souvent chez les générations un peu plus âgées. Et c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai construit ce couple, c'est que je me suis dit qu'il fallait quelqu'un qui donne le change, qui ait autant d'aspérité que lui, en fait, et qui ait du caractère. Et si c'est pas bête, elle imprime ça tout de suite. Mais si elle n'est pas là, il tombe. Et je pense que quand il s'égare, quand il se perd, je ne sais pas quelle scène dans le film, il se perd pour plein de raisons, mais comme par hasard, c'est aussi le moment où il a perdu le contact avec elle, où il a un secret. Il s'est trop éloigné d'elle. Et là, il tombe. C'est un retour. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que j'ai gagné ma vie en faisant des films d'architecture pendant longtemps et que j'ai beaucoup appris, en fait. Alors, ce n'était pas une décision au départ, je n'ai pas fait d'études d'architecture, ça s'est fait un peu par hasard au départ et je pense que j'aimais ça, donc ça s'est auto-entretenu. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de films d'architecture, mais c'était vraiment des films. Institutionnels ou documentaires pour des institutions comme le Pavillon National ou la Cité de l'Architecture, c'était pas des œuvres de fiction. Et voilà, donc je pense que ça m'intéresse, j'ai beaucoup filmé ça, je pense que c'est en filmant l'architecture que mon œil s'est formé aussi, donc je pense que ça m'intéresse, il n'y a pas de doute, donc c'est probablement pour ça que je me suis arrêté sur ce livre. Mais voilà. Mais pour autant, par exemple, sur ce film, si j'avais des films de référence, c'était jamais des films. Sur des architectes, c'était autre chose. Donc, il y avait aussi une envie de cinéma que ce projet permettait d'assouvir. Non, en fait, pour ce film, on en parlait tout à l'heure, j'ai regardé beaucoup de films de Depardon parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen de comprendre l'époque, époque partie de campagne et un peu après. Ouais, de Raymond Depardon. Vraiment, les documentaires de Depardon étaient une source d'inspiration sur, j'irais, la direction artistique, sur comment ils s'habillaient, même comment on filmait les espaces à l'époque, etc. Enfin, c'était vraiment. On a tourné en 4 tiers pour plein de raisons, mais ces films-là aussi étaient en 4 tiers. Et après, si j'avais un film que je devais citer comme référence, je dirais que c'est Le Caïman de Moretti, parce que je trouve que Le Caïman, c'est à la fois un film intime et politique. C'est un film qui est parfois drôle alors que c'est une tragédie. Et parce que dans Le Caïman, il parle beaucoup de cinéma et de création et là, son culte de cinéma à travers aussi une histoire qui parle de politique. Et il y a un peu ça dans La Grande Arche, toute proportion gardée. En tout cas, c'était vraiment dans le ton et dans le côté hybride du film, une référence, je dirais, Moretti. Sprecke Olsen, c'est un type qui est obsédé par la forme carrée. Tout ce qu'il a fait, enfin, il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait quatre chapelles et sa maison. Et le motif du carré est omniprésent. On le voit d'ailleurs dans la chapelle qu'il visite avec Andreu dans le film. Assez naturellement, je me suis dit, ce film doit se faire au format carré. C'est-à-dire, il faut imprimer cette forme qui obsède le personnage. Si c'est aussi notre cadre, je me dis, il faut qu'elle diffuse. Et elle imprimera d'autant mieux que l'image est carrée. Et après, je pense qu'on a aussi quelqu'un qui est à un moment prisonnier de son carré, qui est prisonnier de son idée, qui n'arrive pas à rendre son idée compatible avec le réel. Donc, il est aussi victime de ce carré. Donc, j'aimais bien l'idée que ce cadre soit un peu plus petit que les cadres qu'on a l'habitude de voir et que notre personnage s'y heurte et n'arrive pas à y trouver son chemin. Oui, c'est-à-dire que dès lors que... En fait, je me suis jamais dit, je fais un biopic, je me suis dit, je raconte cet épisode, le film il commence au moment où le gars gagne le concours, et puis il va jusqu'à sa mort. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne voit pas l'arche achevée, puisqu'il meurt avant que l'arche s'achève. Donc l'idée, c'était de le suivre, ce moment-là. Je me suis dit, on va suivre un personnage pendant un moment qui est le moment phare de son existence, ou un moment auquel je trouve qu'il y a pas mal de raisons de s'intéresser, mais je me suis pas dit, je fais un biopic au sens classique du terme. Et après... Le fait que ça finisse mal, la vie ça finit mal, on meurt tous à la fin. Donc je pense qu'en fait, les biopics avec des pièces nous mentent et qu'on ne peut pas faire autrement que de raconter des gens qui meurent à la fin. Voilà. Non, mais là l'histoire est triste, donc ça pouvait que être fidèle à l'histoire. Quoi. Moi ce que j'aime bien, c'est que les personnages aient leur raison et que les personnages soient contrastés. C'est-à-dire que je prie que le scène, moi il m'intéresse parce qu'il a raison de croire en ses idées, il a raison de les défendre et puis il a tort de un moment d'être trop rigide. De ne pas faire les compromis, je ne dis pas les compromissions, mais les compromis qu'il faut pour que justement son idée puisse voir le jour. Donc voilà, il a tort de s'obstiner, mais il a raison aussi. Donc moi, mon rapport à lui, il est également contrasté, c'est-à-dire que c'est un mélange d'admiration et puis de regret en voyant la manière dont il s'est comporté. Mais c'est sûr que je voulais qu'il n'y ait aucune complaisance vis-à-vis de cette figure bien connue du créateur ultime, du... Moi, je ne pense pas que les héros sont forcément des héros ou que les génies sont forcément des génies maudits. Je pense que les génies, c'est aussi ceux qui trouvent un chemin pour que leur œuvre puisse voir le jour. Et même, le génie s'exprime s'il arrive à aller au bout de son geste. Et pour un architecte, aller au bout de son geste, c'est que le bâtiment sorte de terre. Là, lui, on voit bien qu'il n'y arrive pas. Donc, il y a quelque chose de contrarié chez lui. Et je ne voulais pas qu'il y ait de complaisance vis-à-vis de ce destin-là. Et je voulais qu'à un moment dans le film, on ait aussi une ouverture vers les grands travaux. C'est une période hors du commun aussi pour ça. Il y avait la Grande Arche, mais il y avait aussi d'autres chantiers ailleurs. Et je pense aussi que ça intervient à un moment où le projet de la Grande Arche est menacé, risque de s'arrêter. Donc c'était d'autant plus cruel pour lui que d'apprendre ça et de vivre ça sur un lieu où un autre chantier, lui pour le coup, sort de terre et est en train de voir le jour. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que j'ai mis cette scène. Mais vu aujourd'hui, ça paraît inouï de se figurer le nombre de chantiers d'envergure et hyper audacieux qu'il pouvait y avoir, parce que construire une pyramide au Louvre, on sait la polémique que ça a suscité. L'Arche était aussi un bâtiment extrêmement polémique, donc et audacieux et radical. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une volonté et une vision aussi de Mitterrand. Le film montre bien les écueils de cette monarchie présidentielle et de la haute administration française, mais je pense que, encore une fois, je parlais de contraste et de nuance. Moi, j'aime aussi, je trouve aussi admirable le volontarisme de Mitterrand sur les questions de création et de culture et le côté visionnaire qu'il a eu et ambitieux. Et puis, il manque pas de panache. Mitterrand, quand même, là, il file les clés du camion à un étranger à la faveur d'un concours anonyme international. Il va au bout du truc. En lui faisant confiance, c'est aussi un acte d'une grande ouverture et une grande audace de la part du président. Il y a un génie qui est Sprecke Olsen, mais les génies peuvent s'exprimer que s'il y a un écosystème qui le permet. Et pour ça, le politique est essentiel. Et Mitterrand, il avait décidé, alors sur un fait du prince, parce qu'il ne l'avait pas annoncé en 81 pendant l'élection, mais sur un fait du prince, il décide d'investir massivement dans les grands travaux et de faire des grands travaux présidentiels sur la base de sa seule volonté. Mais si lui n'a pas cette volonté politique, mais évidemment ses gestes ne peuvent pas s'exprimer. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc ce binôme presque mécène-artiste est aussi un binôme phare du film. Moi, j'ai un peu travaillé au ministère de la Culture, donc j'avais eu un petit aperçu de qu'est-ce que c'est ce système de cours dans la haute administration. Le film est raconté à travers le regard d'un étranger, d'un Danois. Et je pense que dans ses yeux, notre système de cours présidentiel et le décorum de nos lieux de pouvoir, etc., ne peut que l'impressionner, ne peut que l'étonner et ne peut que lui paraître incongru. Ce qui nous paraît habituel aux yeux d'un étranger ne l'est pas. Et le film, en adoptant son point de vue, pouvait, comme ça, remettre en perspective des choses qui, en fait, sont inouïes. Donc, ce système de cours, il est inouï. Cette déférence du président, elle est peut-être excessive, etc. Donc, moi, j'ai voulu m'amuser avec ça. Il y a quelque chose de presque comique là-dedans. Ce qui n'empêche que le personnage que joue Xavier Dolan est tout ambitieux ou intrigant qu'il puisse être, et aussi quelqu'un qui est profondément habité par sa mission. Et sa mission, c'est réussir à faire en sorte que ce projet présidentiel voie le jour, faire en sorte que cette arche se construise. Et il y met vraiment, il le dit à la fin, mais il y met vraiment toute son énergie, toute son intelligence, tout son travail. Voilà, donc c'est là encore, c'est pas un personnage que je voulais moquer. Oui. Par certains aspects, il est comique. Oui, il y a inconsciemment des écueils dans ce système de cours, mais il y a aussi de l'intelligence et de l'engagement.
Et
Il y avait de la jeunesse aussi à l'époque. Ce qui était impressionnant quand on regarde ces années-là, c'est que ben, il y avait des jeunes ministres, il y avait des jeunes hauts fonctionnaires, etc. Mitterrand, il a quand même renouvelé tout ce personnel.
Ah, auriez-vous une paire de jumelles?
Bien sûr.
Je vais prendre les jumelles.
Bien sûr.
Allons-y directement par ici, ce sera plus agréable de marcher. Vous comprenez, je suis seul comptable de la perspective devant la nation. Je dois prendre toutes les précautions que ma responsabilité exige.
Mais le cube n'est pas élevé, il respectera les grands équilibres. Vous allez voir, la simulation, tout est très clair. Voici le cube, monsieur le président. Ce que vous voyez, c'est la partie haute du bâtiment. Je vous rappelle que le cube sera ouvert.
C'est très bien.
Et la perspective est respectée.
C'est vraiment très bien, mais c'est bleu.
Oui, c'est bleu.
J'aurais préféré que ce soit rose.
Ça, c'est une scène réelle. C'est une scène réelle
il a
qui est.
Vraiment fait.
Ouais. Il y a vraiment eu un petit déjeuner avec Spreckelsen à l'occasion de la simulation.
Ouais.
Et Mitterrand a vraiment
dit. Et il s'est passé comme ça, la simulation. Qu'une grille.
Elle s'est passée comme ça au mois d'août, un 3 août, je crois, parce qu'il fallait que. Enfin, en plein été. Et Mitterrand a pris de vitesse son système de sécurité en sortant incognito par la cour. Il a vraiment dit c'est l'endroit du monde où je suis plus en sécurité puisque personne ne sait que je suis là. Donc ça, c'est raconté par mille détails dans le livre et s'il y a des témoins, donc c'est tout à fait avéré. Et c'est vrai que ça, c'était un des temps forts du tournage parce qu'il y avait comme ça, bon, il y avait évidemment l'enjeu de restituer l'époque et en particulier de restituer le chantier qui était un des grands enjeux du film. Et puis après, il y avait accéder à ces lieux emblématiques qu'on connaît tous et qui donneront du crédit à l'histoire et qui lui donneront aussi son échelle, son envergure. Et d'avoir la plus belle, cette avenue qui est si emblématique, dans le film c'était essentiel, on est sur l'Axe Royal, donc à un moment il fallait qu'on ressente l'Axe Royal. Et donc cette scène, j'y tenais énormément, c'était un combat parce qu'elle coûtait très cher. Il fallait avoir l'autorisation de tourner sur les Champs-Élysées. Donc grâce à Muriel, on a eu 3 heures un dimanche matin, l'autorisation de bloquer un tronçon des Champs-Élysées.
Et il n'a pas plu.
Et on, voilà, l'état de grâce, c'est que ce jour-là, il n'a pas plu.
Parce qu'il a plu tout le tournage, donc.
Alors qu'il pleuvait tout le temps. Et donc, on a pu tourner cette scène in situ, parce que c'était impossible de la faire autrement. En effets spéciaux, c'était pas concevable, c'était inaccessible pour nous. Et donc, on l'a tourné comme ça. On a mis un carrousel de voitures d'époque qui tournait autour de nos acteurs, et on a pu tourner la scène. Et c'était génial. Le parti pris qui était le nôtre, et ce qui nous a permis d'avoir des scènes, on voit le chantier dans toute son envergure, on a des plans larges, etc., ça, on a pu le faire parce qu'on est parti de photographies préexistantes qu'on a animées.
Il y avait un vrai décor, hein. On a fait un chantier.
Et après, quand il fallait faire des plans serrés, bah là, pour les plans serrés, à hauteur de personnage et un peu plus haut, on reconstruisait des éléments du vrai chantier, mais seulement des éléments. qui en effets spéciaux était agrandi. Donc c'est un mélange de construction. Donc on avait une sorte de studio qui était à Coulommiers près de Paris, un champ de patates hein, avec beaucoup de boue. On avait construit quelques éléments, des bouts de piliers, etc. Mais seulement les bases à chaque fois, et le reste est fait en effets spéciaux. De photographie pour les plans larges qu'on a animés. Ça, c'était génial à faire. Et ça nous a permis d'arriver à ça alors qu'on n'avait pas un budget pharaonique, mais qu'il y a quand même plusieurs scènes avec beaucoup d'effets spéciaux et on va le chanter. Et ça donne aussi une base réelle à laquelle je tenais. C'est-à-dire que ce n'est pas une image digitale inventée, c'est vraiment le chantier.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président?
Vous demandez à Subilon pour le savoir.
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum.
Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et 4 églises.
Le Président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien.
C'est tout à fait concluant.
Boone est vurdéré à 1,3 milliards.
Subilon est l'homme des maisons.
C'est son valet.
Subilon m'a informé que vous travaillez avec Andreu.
Je suis très heureux de rencontrer l'homme qui a mis d'accord toute une profession. Quand j'ai conçu Roissy, j'avais 29 ans. Plus d'une fois, je me suis demandé si j'étais pas un imposteur.
Et que pensez-vous des architectes français?
Je le trouve inhibé. Je veux des nuages qui flottent.
Je vous avais indiqué que c'était impossible.
On a toujours le choix.
If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable to you.
My presence here is no longer needed.
If it's urgent, just take your time.
Du har mange følelser.
Mitterrand est mon client. Et je respecte toujours mon client.
Arrêtez de vous réfugier derrière le président.
You're stealing my cue.
I'm trying to save
you. No, you're not. Cube. Je dois parler avec Monsieur le Président.
Så er jeg omringet af idioter og gangster og svindlere.
Le cube, c'est l'œuvre de ma vie.
Klaus Bang, il parle pas français en vrai. Il a fait un travail inouï pour apprendre le texte qu'il doit dire dans le film, mais il parle pas un mot de français. Mais il est vraiment impressionnant parce que je pense qu'il il a une oreille hors du commun. Et en plus, c'est un énorme travailleur. Et ça lui a permis d'être très libre alors qu'il ne parle pas français du tout. Et ça lui a permis en plus de, je trouve, enfin, moi quand je le dirigeais, je pouvais le diriger avec beaucoup de précision parce qu'il il réussissait bien qu'il ne parle pas français à comprendre ce qu'il disait, à savoir sur quel mot il doit appuyer, même sur quelle syllabe il doit appuyer. Souvent, quand les gens apprennent phonétiquement une langue, on sent qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, c'est un enchaînement de syllabes. Là, lui, il arrivait à naviguer et parfois donc à appuyer les bons mots, etc. Donc, on a l'impression qu'il comprend et qu'il parle, mais en réalité, il ne parle pas un mot. Donc, lui, je lui parlais anglais. Non, bah, comment j'ai fait? Je pense que ce dont je suis fier, mais c'est probablement une alchimie qui m'a échappé, c'est que bien qu'ils soient dans des registres très différents, mais peut-être parce qu'ils sont dans des registres très différents, ça fonctionne entre les uns et les autres. C'est-à-dire que Xavier Dolan est aussi énergique. Tourbillonnant que Spreckelsen est granitique et immobile. Mais en fait, c'est justement, par contraste, ça marche très bien. Et j'ai l'impression que les uns et les autres, ils se complètent. Il y a presque quelque chose de burlesque chez Michel Faux qui fait du bien. Si tous les personnages avaient été sur le même registre, je pense que Klaus Bang, ça aurait manqué un moment de couleur ou il y aurait quelque chose de plombant. Là, les autres personnages color apporte d'autres couleurs, je trouve. Et donc, ça rehausse l'histoire. Ça, parfois, crée un effet comique, comme je l'ai dit. Et ça tient à leur nature, parce que j'ai pas vraiment... J'ai plutôt accompagné leur nature à chacun. C'est-à-dire que Xavier Dolan, c'est quelqu'un qui aime jouer, qui adore faire des propositions et qui a tendance à aller plutôt très loin. C'est plutôt quelqu'un qu'il faut réfréner que pousser. Mais j'ai accueilli volontiers à chaque fois ses propositions en me disant, c'est bien. Ça donne du relief à son personnage, aux scènes, sachant que j'ai à côté toujours mon point d'ancrage avec Spreckelsen. Et j'ai fait ça pour chacun. J'ai essayé d'accompagner leur nature et en me disant et en constatant que puisque ces natures étaient différentes, ça faisait un kaléidoscope qui fonctionnait. Quand j'écrivais, je rêvais que ce soit lui qui fasse Mitterrand. Je me disais que ça lui irait bien. Et en tout cas, le parti pris qui était le nôtre, c'est de dire on ne cherche ni à imiter Mitterrand, parce qu'on savait qu'il ne lui ressemblait pas, et ça ne m'intéressait pas en fait qu'il l'imite ou qu'il cherche à lui ressembler, puisque de toute façon, il ne lui ressemble pas, et que tout le monde sait, le pacte avec le créateur, il est très clair, c'est quelqu'un qui joue ce rôle, donc ce n'est pas lui. Et je ne voulais pas non plus qu'on fasse une parodie, et on s'est dit que ce serait une évocation de Mitterrand. Il faut qu'il y ait quelque chose en lui qui évoque Mitterrand, qui fasse que la correspondance se fait, même si il lui ressemble pas et qu'on voit, c'est assumé que ça n'est pas lui. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a dans l'interprétation qu'il propose quelque chose de l'ordre de la... Le personnage a une certaine distance, il est là et en même temps on sent qu'il y a quelque chose qui flotte, il y a un côté cérébral aussi et... qu'il a, voilà, que Faux, en faisant rien, en faisant beaucoup, mais en donnant l'impression de faire rien, a réussi à convoquer, et donc ça fonctionne. Voilà, mais en tout cas, dès que j'écrivais, je me disais, tiens, j'aimerais lui proposer, et après, je ne savais pas si ça lui parlerait, s'il aurait envie lui d'y aller, mais ça m'intéressait, ça. Et j'aimais bien me dire qu'il y a quelques surprises, Xavier Dolan, c'est une idée qui est arrivée tard, et en fait, je trouvais que c'était une bonne idée de déjouer un peu les attentes, c'est-à-dire qu'effectivement il est québécois, donc on se dit qu'est-ce qu'il fout là, mais en fait il a tout à fait la nature qui est bien pour ce rôle, et j'aimais bien moi ouvrir ça, c'est-à-dire que c'est un film qui raconte les arcanes du pouvoir, qui est un truc très parisien par définition, encore que en fait les arcanes du pouvoir pendant longtemps, notamment à cette époque, elles drainaient des gens qui venaient toute la France, les élites, il y avait encore une certaine méritocratie, donc ça drainait les talents comme selon l'idéal républicain. Mais il y avait le risque de faire un truc un peu trop chic ou un peu trop parisien. Donc moi j'étais content qu'on éclate ça, et donc de faire venir Xavier Dolan qui vient tout bousculer. Bon, par la force des choses, il y avait des Danois aussi, mais ça c'était les rôles qui voulaient ça et c'était très bien. Et donc je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre comme ça. Et même Michel Faux qui arrive avec sa singularité pareil, ça déjoue aussi. Voilà, j'ai pas pris un comédien de la Comédie française qui est venu de manière très docte ou que sais-je, interpréter Mitterrand. Non, c'est Michel Faux qui arrive avec toute sa poésie et qui a priori nous étonne, quoi. Cette histoire, elle se passe au début des années 80, donc il s'agissait de la mettre au début des années 80. Après, moi, je suis né en 77, donc forcément, les années 80, c'est mon enfance. J'étais content, en fait, moi, de revenir à ces années. On a toujours, il y a toujours une forme de nostalgie, enfin, peut-être. En tout cas, chez moi, il y avait ça. Il y avait, moi, ça m'amusait, en tout cas, de revenir à ces années-là. Ces années-là, c'est quand même le tournant vers le tournant libéral de 86. C'est un tournant dans lequel on est toujours. En fait, c'est la fin d'une période romantique, et on a un personnage qui dans sa chair a enduré ça, quoi. Il s'est pris le tournant de la rigueur en pleine tête, si on est parmi, on est mort, et nous on y est toujours dans cette rigueur. Donc il y avait comme la fin d'une période romantique, moi il se trouve que c'est mon enfance aussi, donc c'est peut-être pour ça que je la vois comme ça, mais je crois qu'il y a aussi des éléments tangibles qui nous permettent de dire que c'était pas que pour moi que c'est la fin d'une époque romantique. Donc c'est une période que je trouve passionnante. Non, mais je suis d'accord que c'est moins tape à l'œil, hein. On peut le dire. Non, mais c'est bon, évidemment, il y a des points communs. C'est le portrait d'architecte un peu fou dans les deux cas. Après, le Brutalisme, j'ai l'impression que c'est plus le film d'un rescapé de la Chirac d'un architecte, et que c'est pas vraiment l'architecture qui intéresse le réalisateur de Brutalisme. Là, c'est vraiment un film sur un architecte, et en plus, c'est une histoire vraie, donc il est ancré, ce film, dans une temporalité et dans une réalité. Quand je vous parle comment j'ai travaillé les effets spéciaux, c'est... Je suis parti du réel, et je pense que le film, il est marqué par ça aussi, sur le fait que c'est une fiction assumée avec sa poésie et ses licences poétiques, mais qui s'appuie sur des éléments bien réels. Est arrivé, d'abord Juppé, il était connu pour être dur, et puis Juppé soldait aussi un certain nombre de comptes avec la gauche, Et Shrek Olsen en a fait les frais. Et c'est vraiment avec cette violence-là, quand Shrek Olsen dit qu'il parle de l'arche comme un marchand de tapis, ça, c'est dans le livre, c'est des... Vraiment, Shrek Olsen a été heurté par la manière dont, d'un seul coup, la droite avait une approche très, très rationnelle de l'arche. Et alors que Mitterrand était plein d'égards, de considérations pour l'artiste, etc., il n'y a plus rien de tout ça chez Juppé, mais aussi parce qu'à travers ça, la droite prenait sa revanche vis-à-vis de Mitterrand. Il a payé, évidemment, pour Mitterrand là-dedans, Shrek Olsen. Il a failli disparaître. Si le projet... ne se rationalise pas au sens où s'il devient pas rentable, en se transformant.
Ouais.
Donc, c'est réellement ce qu'évoque Andrew. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs cubes à l'origine, certains qui étaient sur des fameuses collines. Les collines ne se sont jamais faites et ils ont construit des bâtiments qu'ils ont donc pu découper et vendre en tranches. Et donc, ça, c'est très rentable de vendre du bâti. Et dans l'arche elle-même, ils ont densifié. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des blocs, c'était plusieurs blocs de 6 étages, et ben tous ces blocs sont devenus des blocs de 7, pour qu'il y ait plus de foncier à vendre.
Plancher.
Plus de plancher, plus de foncier. Et donc par exemple, la fameuse fresque qui est à l'intérieur, alors elle en pâtit un peu, parce qu'on aimerait bien que les couloirs ils soient un peu plus haut de plafond pour qu'on éprouve mieux la fresque. Et on sent vraiment que c'était conçu pour être plus grand. Quand on est dans l'arche, j'y étais ce matin encore. On voudrait que les plafonds soient un peu plus hauts. Et ça, tout ça, c'était pour sauver... Ils n'ont pas fait de gaieté de cœur, Andrew et ceux qui ont fini l'arche. Ils l'ont fait parce que la droite, sans aucun état d'âme, ne demandait qu'à arrêter. Quoi. Quand Juppé arrive, il le dit dans le film, Andrew, il dit il faut sortir vite de terre, parce qu'une fois qu'il est sorti de terre, politiquement, c'est plus assumable, et puis il y a un côté irréversible, mais... Quand Juppé arrive, c'est encore les fondations, donc il peut tout à fait arrêter, et la menace a été très sérieuse. Ouais. Le livre était quand même une super source, et après, oui, j'ai lu beaucoup, beaucoup de trucs, et j'ai récupéré beaucoup d'archives sur l'arche, etc. J'ai pas fait une approche fétichiste, c'est-à-dire que il s'agissait d'être fidèle à ce qui s'est passé, mais c'est pas très grave si parfois il y a un petit pas de côté sur certains aspects, puis je voulais pas me perdre en plus dans les détails trop techniques, mais oui, j'ai eu accès à pas mal d'archives, à pas mal de maquettes aussi. Les maquettes qu'on voit dans le film sont les vraies maquettes. La maquette du début, c'est la vraie maquette du concours que Shrek Olsen avait remis quand il a fait le concours. Donc, ce travail-là, ça faisait partie du travail de recherche, de documentation du film qui était très amusant à faire. Ouais.
Le budget, il est combien du film ?
7. Est-ce que j'ai eu des difficultés ? En fait, si je suis honnête, j'ai pas eu de difficulté à le financer puisque on a tout eu. Tout ce qu'on a sollicité, on l'a eu. Mais on reste dans une économie de cinéma d'auteur, c'est-à-dire que je ne suis pas allée chercher un groupe, donc c'est que des acteurs indépendants, du distributeur, etc. Donc évidemment, quand on va chercher le max du max, c'était 7, mais il lui aurait fallu 9. C'est-à-dire qu'il a quand même tourné en 7 semaines.
31 jours.
30, même
bien
pas.
Moins, bien moins.
Bien moins, ouais. Donc c'était pas suffisant. C'était évidemment pas suffisant, évidemment pas assez confortable pour... Moi, c'est le temps de tournage qui m'a beaucoup frustrée. Dire que le film a été dur à produire, c'est sûr, parce que c'était que des défis à tous les endroits, à chaque moment. On est parti en risque, beaucoup, mais on a tout récupéré. Tout était cher, tout était difficile, mais l'équipe était magnifique et la régie, notamment, a fait un travail extraordinaire et on a tout eu. Donc je ne peux pas dire que de financer le film, non, ça n'a pas été difficile puisqu'on a tout eu. Donc on ne va pas dire que ça a été difficile. Tout le monde a été complètement impressionné par le scénario de Stéphane. Le scénario de Stéphane, il était tellement beau et rare. En fait, c'est plus rare que beau. C'est-à-dire que d'avoir un objet comme ça entre les mains, ce n'est pas tous les jours. Mais voilà, ensuite, il fallait faire avec la réalité de ce qu'était le film et il ne fallait pas être cheap, quoi.
Et le parti pris, c'était de dire on tournera vite, mais dans des décors qui coûtent cher.
Exactement.
Voilà. C'est pour ça qu'on n'avait que 31 jours, ce qui n'était pas assez, mais en préparant, on a réussi. La preuve, le film est là, et moi, je travaillais dans de bonnes conditions, enfin, j'étais ravi. Mais ça ne peut pas être facile, parce que, en fait, souvent, on sentait qu'on était à la limite et on a eu peur de tomber. Mais le miracle, c'est qu'on n'est jamais tombé.
Ouais, parce qu'on a eu des vrais soucis avec les météos. On avait la météo, le chantier, il se trouve que maintenant, c'est une scène magnifique. Mais on a tourné, il y avait ça, on était tous en bottes.
Il y avait de la boue jusque-là.
Jusque-là, il ne devait pas pleuvoir.
Le chantier avait été inondé.
C'est pas nous qui avons mouillé la boue pour donner cet effet-là.
Il avait tellement plu qu'à un moment, on a même eu peur que ça détériore juste le week-end d'avant le chantier. Enfin bon, donc on a eu des difficultés, mais voilà, c'est les difficultés de tous les films. Sauf que là, c'était parfois un peu plus que d'habitude. Quoi.
Vous savez, produire, on dit toujours ça dans notre milieu, nous, produire, c'est gérer des emmerdes. Bon, ben voilà. Là, il y en a eu un peu plus que d'habitude, mais ça valait le coup. Bah, c'était un jeu entre Stéphane et moi. Depuis le début, je disais, mais évidemment qu'on sera à Cannes. Depuis le début, il me disait, mais non, moi, j'ai jamais été à Cannes. Bah, alors, oui, enfin... Est-ce que c'était évidemment pour les partenaires, pour Stéphane, pour moi, mais quand on a mis autant d'énergie dans un film, tout le monde veut être à Cannes. Hein. Faut pas qu'on se raconte d'histoire. Évidemment qu'on veut tous être à Cannes. Et donc on y était, donc c'était magnifique. C'est pas dans le budget du film, c'est à part. Et ça coûte cher au distributeur qui est derrière. Au vendeur international qui est derrière aussi. Parce que le pacte a donc mis beaucoup d'argent, a cru dès le début au film de manière assez exceptionnelle. Et donc on partage un tiers. Toutes les dépenses, faire venir les acteurs, faire venir... Parce que Cannes ne prend en charge que Stéphane.
Mais Cannes permet de faire des ventes. Donc,
voilà. Non, mais il n'y a rien de mieux.
C'est un lieu unique au monde pour ça. C'est un lieu unique pour donner, exposer son film. Il n'y a pas plus bel écran. Moi, j'ai déjà vu à Cannes, c'est quand même exceptionnel. Ça va avec la figure aussi de l'artiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui c'est un idéaliste, c'est un cérébral. Il y avait toujours cette idée que, oui, il est attaché aux idées, quoi. Donc ça s'oppose surtout à tous les après les obstacles et tous les principes de réalité qui vont venir le heurter. Mais je pense que ça va avec le caractère de ce personnage. C'est quelqu'un qui est énormément... qui réfléchit beaucoup, qui est dans le concept. Donc voilà. J'ai accompagné ça. Ouais. Et avant, à l'Élysée, la scène de dialogue était un peu plus longue et il expliquait pourquoi... les personnages parlaient de leur rapport à la foi, justement. Et je prenais quelle scène... En réalité, Spreckelsen, alors qu'il est danois, il était catholique. Et n'empêche qu'il a créé deux chapelles, il a construit deux chapelles protestantes et deux chapelles catholiques. Mais on sait que Mitterrand il aimait bien dire qu'il croyait dans les forces de l'esprit, etc. Je pense qu'il fallait trouver des points de rencontre entre les deux. Finalement, c'est pas totalement raconté dans le film, mais on peut se dire que l'un comme l'autre, ils ont. Un rapport au spirituel, qu'il soit lié à la foi ou pas, et ça je me prononce pas là-dessus parce que j'en sais rien, mais en tout cas il y a un rapport au spirituel, je crois que la scène on voit bien qu'il est habité par des idées, etc., et Mitterrand il en parlait volontiers également. Enfin il en parlait pas volontiers, mais il s'en cachait pas. C'est une espèce de parenthèse enchantée. D'un seul coup, Spreckelsen, qui est quand même malmené à Paris, qui souffre de... Bah là, il peut se reconnecter avec un rapport presque originel aux choses. Il revient à la matière, il touche la matière. Voilà, Spreckelsen, il a un rapport à l'architecture, on parlait tout à l'heure, très pur, très idéaliste. Donc c'est des formes, c'est des matériaux, c'est ça qui définit une œuvre. Et là, il est de nouveau en contact avec ça, et puis il est loin des... Je pense des tourments parisiens. Donc, de nouveau, ça le régénère. Quoi. Et là aussi, il y a peut-être une autre question qui se pose avec la fille, etc., qui déjoue d'ailleurs, enfin, qui l'écarte. Mais voilà, j'aimais bien qu'à un moment, il se passe autre chose aussi là-bas. La carrière.
Ouais,
bah, c'est magnifique. C'est une échelle inouïe. C'est. Elle est dans le brutaliste aussi, ça vous a plu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et dans je sais pas si vous avez vu le film sur Michel-Ange, là, qui était
sorti. Ouais.
C'est super beau.
Ouais.
Ils sont les mêmes carrières qu'à l'époque florentine.
Ce sont les mêmes.
Exactement.
Et c'est les mêmes carrières avec lesquelles Mussolini a construit Eour, etc. C'est vraiment l'endroit d'Italie. Mais le marbre du monde entier vient de là, en fait. Le marbre de Charles de Gaulle vient de Carrare. Après, il y en a plusieurs. Alors, eux, ils sont carrément capables, avec les nervures, de reconnaître tel marbre vient de telle carrière, etc. Et d'ailleurs, le marbre de Charles de Gaulle vient de la carrière où on l'a tourné.
Ah ouais,
ouais. D'accord. Parce que Alvise, là, le mec de la carrière, était allé à Charles de Gaulle. Et eux, ils savent à l'œil dire, il a dit, c'est mes nervures, c'est ma carrière. Oh. Et eux, ils savent différencier leur nervure de celle de vraiment la carrière qui est en face, quoi. Et il y en a, c'est une région, hein, mais c'est petit, où il y en a énormément, il n'y a que ça. Quoi.
Et quand on leur demande, mais un jour, il n'y en aura plus, ils disent non.
Non, il y en aura toujours.
C'est très impressionnant. Un jour, ça sera épuisé. Ouais, ouais, ouais. Et ils disent non.
Ils disent non, il y en a toujours, toujours, c'est toujours. Et c'est vrai
énorme.
Qu'on voit des montagnes immenses. En fait,
et nous, on se dit, ça va s'arrêter. Ouais. Bah, non.
J'étais content d'avoir ce projet, donc ça m'intéressait. Puis je suis content de l'avoir fait, mais on ne fait pas un film pour ça, mais c'est toujours intéressant. Tous les films n'ont pas vocation à ça, mais certains films nous apprennent des trucs. Moi, ce que j'aime bien avec cette histoire, c'est qu'on apprend des trucs. Elle m'intéresse aussi pour ça. Elle nous renseigne aussi, pourtant une époque que j'ai vécue, mais bah, voilà, on connaît tout ça à grande large, personne ne connaît c'est qui en est l'architecte. C'est pas inintéressant d'avoir un film, je trouve, qui renseigne ça. Après, un article Wikipédia pourrait suffire, donc il faut que le projet cinématographique y convoque autre chose, mais c'est, ouais, c'est, je trouve ça intéressant. Ouais, il arrivait assez vite, on a connu la Grande Arche. Ouais. Bah, la Grande Arche était trop technique et trop impersonnelle.
Complètement.
Donc l'inconnu de la Grande Arche était bien.
Ouais, ça ramenait l'humain dans
le... ça, ouais, c'est vraiment son histoire à lui. Laurence Cossey, elle raconte la défense, comme je te disais. Ouais. Donc le personnage précocène, il existe très très peu. Moi, le film, dès lors que je disais, bah, ouais, ma focale, elle va se porter sur ce mystère, sur qui est ce type, cette énigme, bah, ça devenait l'inconnu de la Grande Arche.
Ça fait un enfin... Il y a une espèce d'association d'idées aussi avec le soldat inconnu sous l'arche de triomphe. Enfin, sous l'arche.
Oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé, mais
ouais.
C'est vrai. Qui fait côté de
son.
Est-ce qu'on peut faire une photo?
On peut faire une photo, ouais.